J'ai un petit peu changé le programme, ce que j'allais dire. Je sais pas, ce que je vais dire est lié à ça, est lié à cette question du rapport entre la question des coloniales et le capitalisme. Mais j'avais envie, plutôt que d'aborder les choses d'un point de vue historique, de faire une fresque sur le capitalisme, puisque c'est ce que ce titre-là qu'on m'avait donné imposait. Je suis un petit peu fatigué de faire ça, de raconter des histoires, hein, de faire une espèce de conte épique comme ça sur l'origine du capitalisme. J'ai essayé de parler quelque chose qui me préoccupe davantage maintenant, qui me semble être aussi une possibilité intéressante pour cadrer, pour poser certaines bases de l'état de la réflexion décoloniale telle que je l'aperçois. Donc j'ai proposé comme titre « Penser politiquement race, classe et genre au-delà de l'intersectionnalité ». Ce qui sera, disons, une proposition. Voilà, c'est une proposition, c'est un petit truc expérimental de ce que pourrait être une réflexion sur ces questions-là, d'un point de vue spécifiquement décolonial, du point de vue proprement décolonial, dont Wissam vient de poser le projet. Et en effet, cette pensée, cette pratique politique décoloniale sont souvent accusées de ne pas être capables de réfléchir simultanément à différentes formes d'oppression. En l'espèce, la race, la classe, le genre. C'est-à-dire qu'on serait obsédé par la race. C'est un titre, je crois, dans quelqu'un, les obsédés de la race. Je ne sais plus de qui. Et d'être aveugle au reste, évidemment. D'être aveugle aux autres types de questions. Et selon les adversaires de la perspective décoloniale, les adversaires de gauche, pour le coup, penser simultanément ces trois dimensions ne pourrait se faire que selon et que sous la forme de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que ce sont d'ailleurs, en réalité, dans le langage politique et même dans le langage théorique présent, devenus des synonymes. Parler à la fois de questions raciales, de questions de classe et de questions de genre, c'est devenu faire de l'intersectionnalité. Mais je crois que c'est une erreur. C'est-à-dire que l'intersectionnalité, c'est une théorie qui a une histoire et qui n'est, selon moi, qu'une forme possible que peut prendre une réflexion conjointe sur ces trois éléments. Mais ce n'est pas la totalité du champ, ce n'est pas la totalité de la réflexion qu'on peut avoir sur ces questions-là. Ce n'en est qu'un versant particulier, ce n'en est qu'un versant spécifique, ce n'en est qu'une méthode parmi d'autres qui sont possibles. Et donc, ce que j'ai essayé d'esquisser, ce que j'ai essayé de... De tenter, disons, de ce dont je vais tenter de poser le projet, c'est une réflexion sur ces questions-là qui se ferait du point de vue décolonial. Et dont je vais tenter de donner quelques bases, mais avant tout, avant d'entrer dans cette partie, disons, programmatique, il faut que j'explique pourquoi, selon moi, l'intersectionnalité, telle qu'elle se constitue, telle qu'elle, disons, se diffuse dans le discours militant et le discours théorique présent, me semble insuffisante, voire même me semble fautive par de nombreux points. Premièrement, pour faire un petit, comment dire, état des lieux des discours disponibles, des discours qui sont sur le marché des idées présentement, en France, nous avons une tradition qui est incarnée par des gens comme Kergoat, comme Delphi, comme Guillaumin, qui est une tradition dite du féminisme matérialiste. Elle a pensé, même avant la lettre, d'une certaine manière, cette question de l'intersectionnalité, qui n'est pas exactement théorisée de la même manière, mais disons qu'on peut rapprocher de cela, qui va souvent sous des formules assez pompeuses, disons, qui ont été trouvées comme consubstantialité des rapports sociaux, par exemple, bon, imbrication des rapports de pouvoir, des machins comme ça. Et aux USA, évidemment, on a cette notion d'intersectionnalité. Mais on a toujours une approche qui a, dans ces différents cas, sa source dans le discours et dans la pensée féministe, et qui, me semble-t-il, malgré toutes les métaphores différentes de l'imbrication, de l'intersection, etc., affirme toujours, d'une manière ou d'une autre, même si on dit qu'on ne le fait pas, il me semble que c'est pourtant ça qu'on fait, disons, une vision cumulative, une vision même cumulativiste de l'oppression, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que nous avons l'idée que, par exemple, l'expérience, pour prendre cet exemple, de la femme noire ou de la femme arabe n'est à peu près rien d'autre que l'expérience de l'homme noir ou de l'homme arabe, mais en pire. puisque s'y ajoute, en plus de l'oppression raciale, le type d'oppression de genre. Donc nous avons l'idée finalement qu'il y a un certain stock de violence de genre qui se balade d'un côté, un certain stock de violence de race qui se balade de l'autre, et qui non seulement se combinent, mais évidemment créent une espèce d'exposant, une espèce de multiplicateur lorsqu'elles viennent à se rencontrer. Évidemment, c'est pas que l'addition l'une des autres, mais c'est encore pire, d'une certaine manière, puisqu'elles seraient censées se conjuguer et se multiplier, se féconder les unes les autres. Ce qui m'apparaît, et je vais tenter de le prouver au cours de cette intervention, c'est que nous avons là de fausses évidences, qui sont des évidences empiriquement fausses. Et c'est ça que je vais tenter de prouver, et de proposer une autre voie qui s'abstiendrait de présupposer, car c'est ça le présupposé fondamental de ces approches, une espèce d'unité de la masculinité, une espèce d'unité de la féminité qui fait tenir ensemble tout cela. Pensez des féminités, des masculinités multiples, ce qui n'est pas très original, j'en conviens, mais qui est peut-être assez rarement fait en ce qui concerne de le mettre au service d'une critique des présupposés de l'intersectionnalité. Pour en conclure, donc finalement, que la masculinité noire, arabe, prolétaire, sous-prolétaire n'a en réalité rien à voir, et j'insiste, n'a rien à voir avec la masculinité blanche hégémonique en ce qui concerne son rapport à l'État et au capital. Voilà le premier point. Il n'y a pas de terrain d'entente entre ces deux choses-là, contrairement à ce que la théorie intersectionnelle tend à défendre. Deuxième point de critique de la tradition théorique intersectionnelle, c'est qu'il y a une tendance ou une habitude qui consiste à envisager les formes d'oppression de façon analogique. Pour reprendre une analyse pertinente et frappante que mobilise Françoise Vergès dans son dernier ouvrage, depuis Olympe de Gouges, cette grande féministe, les femmes blanches se comparent dans la pensée féministe à des esclaves, alors même qu'elles sont légalement en droit de les posséder. Et en outre, le travail de ces féministes matérialistes comme Guillaumin, dont je viens de parler, qui se sont bâtis en réalité dans une comparaison constante et dans une sorte de, parfois de confusion entre les formes de la violence de genre ou de la violence de sexe, comme elles disent, et de la violence raciale et coloniale. Nous avons une Guillaumin, c'est pas la seule, donc je vous la prends comme exemple, qui a en réalité absorbé, digérer la pensée politique radicale noire d'auteurs comme Fanon, d'auteurs comme Césaire, etc., et qui les a, évidemment, et également la pensée africaine-américaine, qu'il a, employée, il est vrai, avec beaucoup de maestria, beaucoup d'élégance et de qualité, mais qui en a fait autre chose, et qui en a fait quelque chose où, d'une part, la violence raciste et la violence sexiste ont beaucoup plus de similarités dans sa théorie qu'elles en ont dans la réalité, à mon avis. On a là une espèce d'excès d'usage de l'analogie, puisque la femme serait d'une certaine manière, la femme blanche en l'espèce serait d'une certaine manière une forme d'esclave, comme je viens de le dire. Et d'autre part, nous avons des auteurs comme Guillaumin ou comme Delphi qui ont produit des critiques du racisme qui ont eu un certain succès, qui leur ont valu une certaine renommée, mais qui, me semble-t-il, n'apportent rien par rapport à Fanon, à Diop, à Bico, dont elle s'inspire, mais qui surtout retranche de ces auteurs-là et de tant d'autres toute la dimension révolutionnaire, toute la dimension du panafricanisme, toute la dimension de l'internationalisme révolutionnaire, toute la dimension, en ce qui concerne Fanon, de l'engagement dans la guerre d'Algérie, etc. Donc, ce qu'elles ont permis de faire, et ce qui leur a valu, à mon avis, sur les questions raciales, un grand succès, c'est qu'elles ont rendu disponible une théorie critique du racisme qui reprenait pas mal d'éléments de cette pensée radicale noire, de Fanon par exemple, mais sans que cette théorie soit alourdie de références au panafricanisme, de références à la guerre d'Algérie, etc., qui, à cette époque-là, n'était absolument pas bien acceptée dans le milieu universitaire français. Donc on a, comme ça, en outre, une sorte d'accumulation primitive de la pensée et de l'expérience des hommes colonisés qui sont mis au service de ces auteurs féministes, qui absorbent la théorie et qui en plus disqualifient d'une certaine manière ces auteurs en les transformant en des ennemis de la classe des femmes, etc. Nous avons donc un usage assez intéressant de la pensée qui détruit du même coup les sujets qui la produisent. Et enfin, troisième point, nous avons dans le contexte français une idée de l'intersectionnalité et de l'articulation qui sont le plus souvent utilisées pour mettre la question raciale au second plan et en nier l'autonomie. Et là encore, c'est le produit de l'hégémonie d'un certain discours féministe sur la totalité des questions sociales et des questions du pouvoir qui est en jeu. C'est-à-dire que la race et même la classe sont conditionnées à la question du genre dans ce type d'approche. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui témoigne d'une certaine prise de position et d'une certaine perspective. Et évidemment, dans la perspective des coloniales, comme on va le voir, il s'agit d'une certaine manière de prendre pour point de départ non pas le levier féministe, mais davantage le levier des coloniales, le levier de la question raciale. Donc, en somme, nous avons, dans cette perspective intersectionnelle, une approche qui est cumulativiste, qui est analogique et qui est, de manière hégémonique, féministe, du complexe race-classe-genre. Et donc, j'ai tenté de proposer une critique et une autre perspective sur cette même question à partir d'un autre point de vue. Alors donc, quelle serait une autre approche possible de l'approche de la race, de la classe et du genre? Eh bien, une approche décoloniale. Mais définissons d'abord cette affaire du décolonial afin d'y voir plus clair. Je pense que la pensée politique décoloniale, c'est une vision politique du monde qui soutient la thèse d'une centralité de l'impérialisme colonial européen dans la définition de la modernité. Bon, là, je vais être obligé de faire comme un petit récit, quoi, comme j'avais dit que je ne le ferais pas, mais bon, c'est un petit peu forcé. Quoi. L'idée, c'est tout simplement que ce qu'on appelle la modernité est inséparable de la conquête du nouveau monde, comme on dit, dont la condition de possibilité est la négation de l'humanité des Amérindiens. Cette modernité est également indissociable et inséparable de la capture, du transbordement, de la surexploitation de millions d'Africains noirs, et là encore, de la négation de leur humanité par surcroît. Nous avons par suite une accumulation de richesses au bénéfice d'une bourgeoisie blanche et, encore par surcroît, une division géopolitique et géoéconomique du monde entre ce qu'on appellera le centre et la périphérie, c'est-à-dire entre les pays du Nord, exploiteurs, consommateurs et peuplés d'humains légitimes, et entre les pays du Sud qui sont exploités, soumis à l'extractivisme, aux guerres impériales et peuplés d'êtres qui sont tenus pour des déchets, pour des non-humains. Donc mon but, c'est de voir comment il est possible de repenser le complexe de race, classe et genre dans le contexte français actuel à partir de cette perspective-là. Je vais d'abord m'intéresser à la question du genre, puis à la question de la lutte des classes. Je ne me consacrerai pas de partie spécifique à la question de la race, car il me semble que à titre personnel, comme avec le PIR et avec la Fondation, on en parle déjà beaucoup. Et c'est l'approche à partir de laquelle je vais vers les autres questions. C'est toujours un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est toujours un petit peu comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la race et au genre, par exemple, depuis une perspective qui sera la perspective marxiste. Cette perspective est ininterrogée, c'est notre point de départ. Où on va s'intéresser à la classe et à la race, comme je l'ai montré, à partir de la perspective féministe. On part d'une certaine manière d'un stock de connaissances et d'un stock de concepts qui seront ceux à partir desquels on va cheminer pour questionner des objets qui sont peut-être traditionnellement moins centraux dans cette tradition politique et dans cette tradition intellectuelle-là. Et donc, j'ai essayé d'aller vers ces questions de genre et de classe depuis l'approche décoloniale, car ça n'a pas beaucoup été fait encore, même si je suis sûr que ça va se faire beaucoup dans l'avenir. Venons donc à la question du genre. Évidemment, en peu de temps comme ça, je n'ai pas la prétention de parler de cette thématique dans sa totalité. Je vais me contenter d'aborder un sujet qui fâche, et qui a souvent été traité d'une certaine manière comme un détail, comme un point de détail. Puisque aujourd'hui, parler du genre, pour l'essentiel, dans la recherche, si vous voyez dans la recherche, ou dans le langage militant le plus courant, parler de genre, c'est essentiellement synonyme de parler des femmes. Et un petit peu à la marge, éventuellement, de parler de questions queer, de questions trans, bon, quand on a le temps. Et la masculinité n'est pas traitée au titre du genre, et elle n'est pas traitée avec beaucoup d'attention et de sérieux, en tout cas en ce qui concerne la thématique des hommes et des garçons non blancs, c'est certain. Et c'est donc de ça que je vais parler. Je vais pas parler de féminisme, évidemment ça fait partie très largement de la question, mais enfin il y a des travaux de qualité là-dessus, donc je n'ai pas besoin de m'en faire le perroquet, mais le bouquin de Vergès, je suis en bon accord avec l'essentiel. On a l'article de Boutelja sur le féminisme décolonial là-dessus qui est solide. Aux États-Unis, on a les travaux de Saïdia Hartman qui sont très bien, quoi, sur la question du rapport des femmes noires à l'héritage de l'esclavage. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de choses. Alors c'est pour ça que je me dis que c'est pas grave si je parle que des gars, quoi. On fait le reproche parfois. C'est dit. Simple question à laquelle je veux répondre, tout bêtement, comment j'aborde cette question. Simplement, je veux répondre à la question de savoir si, en France, le genre des hommes non blancs leur octroie ou non un privilège. C'est un mot à la mode, un privilège. C'est un mot mal choisi, je veux dire. Ce mot de privilège en l'espèce. Ne pas être traité complètement comme une merde, c'est tenu pour être un privilège. C'est assez bizarre, souvent, dans ce... Si on parle de privilège, c'est-à-dire que le standard, c'est vraiment d'être tenu comme un type tuable, absolument à merci. C'est une drôle de tournure d'esprit, je trouve. Mais enfin, c'est le langage commun, quoi. Je le prends. Hein. Donc, le genre des hommes non-blancs leur octroie-t-il un privilège? Non. Mais, selon une étude menée cette année, 2019, par l'INED et par UPenn, l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, qui est une université de grand renom, les hommes adultes, descendants de seconde génération d'immigrés nord-africains, sont victimes de surmortalité. C'est-à-dire que le taux de décès entre 18 et 65 ans chez ces hommes nord-africains est 1,7 fois plus élevé dans ces populations que chez leurs homologues blancs. Et même les hommes nord-africains de haut niveau d'études sont victimes de cette surmortalité. Ce qui objective le fait que ce n'est pas une question de classe en l'espèce. Les hommes issus de la seconde génération, issus d'immigrés d'Europe du Sud, ne subissent pas cette surmortalité. Ce qui objective que le problème n'est pas d'être descendant de migrants comme tel. Les femmes nord-africaines, par rapport aux femmes blanches, ne subissent pas cette surmortalité. Aux femmes françaises non immigrées, plus exactement, pour prendre vraiment les termes de l'étude. Elles ne subissent pas non plus cette surmortalité, les femmes. Cette étude, si je ne dis pas de bêtises, disons, objective donc qu'il existe une condition genrée et racialisée des hommes arabes, pour parler le langage commun, une condition genrée et racialisée des hommes arabes qui est une condition de mort prématurée. C'est aussi bête que ça. Je mets ça en rapport avec un autre rapport du Défenseur des droits, cette fois 2017, selon lequel les hommes noirs et arabes ont 20 fois plus de risques de subir un contrôle d'identité que la population de référence. Et c'est pas tout. Selon une enquête menée dans une prison d'Île-de-France par Didier Fassin, les hommes noirs et arabes représentent 2/3 de l'ensemble des détenus et les 3/4 des détenus de moins de 30 ans. Et en France, je rappelle que les hommes constituent 95% de la population carcérale totale. Donc on a donc des prisons françaises, en tout cas à partir de cet exemple, puisque nous n'avons pas de statistiques générales sur cette question, mais il est possible, disons, de considérer cet exemple, vu le caractère extrêmement massif de ces chiffres, pour significatif de quelque chose. Nous pouvons imaginer que nous avons des prisons qui sont largement peuplées d'hommes noirs et arabes dans ce pays, qui sont en réalité les chiffres, lorsqu'on ne considère pas la quantité de détenus qui, aux États-Unis, est évidemment bien supérieure, mais en ce qui concerne la répartition raciale que démontre Fassin, nous avons en réalité exactement la même répartition en France et aux États-Unis. Exactement la même. J'en conclus, à partir de ces quelques données, je pense que c'est tout de même représentatif, la condition des hommes arabes et des hommes noirs en France est une condition de surexposition à la violence d'État et de surexposition à la mort prématurée. Ce n'est pas très exactement la définition d'un privilège. Selon le théoricien queer Jack Halberstam, je le cite à peu près, la masculinité dans nos sociétés convoque les idées de pouvoir, de légitimité, de privilège. Elle figure le pouvoir d'État et l'inégalité de la répartition des richesses. Est-ce que les masculinités non blanches, est-ce que les masculinités arabes et noires supportent ce même type d'imaginaire? Il n'est qu'à lire Fanon pour se souvenir, pour se rendre compte que c'est absolument pas ce même genre d'imaginaire que la masculinité noire recouvre, par exemple. Ce qu'elle recouvre, c'est l'imaginaire de la violence, l'imaginaire de la brutalité, l'imaginaire de l'insatiable soif sexuelle, l'imaginaire du pénis démesuré, ce type d'imaginaire qui sont associés à la masculinité noire. Non pas le caractère protecteur, mais le caractère prédateur. Ce que je veux dire, c'est que si on a en tête, si on admet que le genre, le concept de genre qu'on utilise dans les sciences sociales, signifie aujourd'hui que ce n'est pas juste une affaire d'organes génitaux, mais c'est une affaire de construction imaginaire et de normes, le genre. Eh bien, il faut en conclure, je crois, que le genre des hommes arabes et noirs n'est pas le même genre que celui des hommes blancs. C'est autre chose. Ce n'est pas le même genre. Il n'y a pas de genre masculin comme tel auquel nous participerions tous. Ils sont régis par des normes, un horizon d'attente et un horizon d'imaginaire qui sont absolument dissemblables. Ce n'est pas les mêmes attributs. Et les attributs spécifiques des hommes noirs et arabes attirent à eux la violence d'État. Elle déclenche une rivalité viriliste et érotique de la police de l'homme blanc par rapport à ces hommes arabes et noirs. On a là, pour le cas des Noirs, une sorte de négrophilie qui est constitutive de la violence de l'État, c'est-à-dire qu'on fantasme des caractéristiques uniques et des caractéristiques spécifiques au genre de l'homme noir. Une puissance sexuelle, une force physique, une espèce de puissance musculaire bien particulière dont Fanon parle dans Peau noire, masque blanc. Et cela alimente une rivalité raciale et une sorte de désir de destruction de ces hommes dont nous avons des exemples dans ces contrôles d'identité avec palpation dont les hommes arabes et noirs sont de manière prédominante les victimes. Lorsque je dis ça, souvent, lorsque j'aborde cette question, notamment sous l'angle des taux d'assassinat et des taux d'incarcération de ces hommes, une tendance qu'on a souvent, c'est habituel, disons, c'est de me rétorquer, mais vous oubliez les femmes là-dedans, soit parce qu'elles sont un petit peu victimes également de la même chose. Bon, les taux existent, je veux dire, bien entendu, que les femmes sont également victimes de la violence policière, mais j'entends ici parler des victimes majoritaires de ces violences, qui sont majoritaires de manière écrasante. Ou d'autre part, on me dit, mais quand un homme noir ou arabe se fait tuer, ça pose des problèmes à toute la famille, les mères ont des problèmes, etc., elles doivent assumer plein de choses et tout. Évidemment, c'est vrai, c'est vrai. Mais la fréquence avec laquelle on m'impose de me plonger dans ce raisonnement me sidère un petit peu. Ça me semble vraiment une forme de naturalisation de cette mort des Noirs, des hommes noirs et arabes, qui me sidère dans le sens où on se dit, bon, eux ils crèvent, ils vont en tôle, bon, c'est comme ça, c'est un fait. Mais pensons un petit peu à ceux qui derrière doivent assumer, qui ont des vrais problèmes, quoi. Il y a cette espèce de truc-là, de ce réflexe, qui est un produit de la logique intersectionnelle qui est qu'il faut toujours aller regarder ce qui se passe du côté du genre légitime, c'est-à-dire le genre féminin dans ce type d'études. Hein, je parle ici du raisonnement essentiellement des chercheurs et des chercheuses, qui va dire qu'il faut parler du sujet légitime. Quoi. Il faut parler du sujet légitime, c'est-à-dire les femmes, le reste, bon, ils se font beaucoup tuer, mais... Il y a quand même des gens qui ont des vrais problèmes à côté de ça. Quoi. Je dis ça pour anticiper parce que je n'ai pas envie qu'on me pose cette question-là aujourd'hui. Il y a donc, si je reviens à ma question de la négrophilie, une sorte de fétichisme de la répression des hommes non-blancs, qu'on a vu par exemple dans le sinistre épisode de Mantes-la-Jolie, de ces jeunes, de ces adolescents, préadolescents, qu'on a agenouillés devant leur établissement scolaire sous la menace des armes, et qu'on a fait se tenir dans une position humiliante et de soumission pendant plusieurs heures, sous l'œil goguenard et les remarques amusées des agents de police. On a une sorte de fétichisme de la répression, c'est-à-dire une répression à laquelle on prend plaisir et à laquelle on accorde une importance sociale excessive. C'est-à-dire que nous avons là des images et une violence, une répression qui, à mon avis, participe à la cohésion générale de la société qu'on essaye de produire. Il y a une véritable fonction de cette violence sur cette répression de la masculinité arabe et de la masculinité noire. On fabrique du commun en faisant ça. Je passe maintenant à ce deuxième moment qui parle de la question de classe. Et l'une des caractéristiques de la question raciale, comme l'ont montré le premier ensemble de statistiques que j'ai exhibé, c'est qu'elles ont un effet d'exposition, la race a un effet d'exposition à la violence et à la mort anticipée, qui vont au-delà des différences de classe. C'est ce qu'a montré l'étude de Lined et Dupin. Les différences de classe n'affectent que marginalement la surmortalité. Mais, dans les populations non blanches, la division de classe a tout de même une importance fondamentale. Un élément politique bien spécifique, qui est qu'elle a une importance singulière dans la construction de la conscience raciale, qui est aussi une conscience de classe, je crois. Et donc, de la perception des intérêts collectifs. C'est là-dessus que j'aimerais un petit peu parler. Et il me semble intéressant, alors que les élections municipales approchent, que nous puissions tirer les leçons de la séquence qui, aux États-Unis, débute dans les années 60-70, et dont la politiste afro-américaine Kianga Yamata Taylor donne une belle analyse dans l'un de ses livres et qui me semble très intéressante à méditer. Et elle explique en réalité l'émergence d'une classe politique et d'une élite noire et de ses conséquences sur le mouvement noir en général. J'aimerais parler un petit peu de cela maintenant, car je crois que c'est quelque chose dont on pourrait avoir à apprendre pour les années qui viennent. Elle part du principe, enfin de la constatation, que la nouveauté dans les États-Unis des 40 dernières années a été l'apparition d'une élite noire aux États-Unis, ce qu'elle appelle des « black faces on high places », des visages noirs haut placés. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un truc quand même à retenir. Aux États-Unis, les Blancs considèrent 64% de la population, mais détiennent 88% de la richesse. Les Noirs, quant à eux, représentent 13% de la population, mais seulement 2,7% de la richesse. l'écart entre les Noirs riches et les Noirs pauvres est beaucoup plus grand que l'écart entre les Blancs riches et les Blancs pauvres. Ils sont dans une situation d'inégalité extrêmement criante. Et le danger de cette situation est que le succès de certains de ces Noirs, disons, selon la logique de l'exception qui confirme la règle, permettent de légitimer l'état de dénuement et de misère dans lequel se retrouve la très large majorité de la population. Et donc, Kyanga Yamata Taylor explore un petit peu ce moment d'émergence d'une nouvelle classe, d'une nouvelle élite qui vient d'abord de la politique aux États-Unis à partir de la fin des années 60 et du début des années 70. Et tout a commencé en réalité par un projet qui naît du Black Power, qui consistait à soutenir des initiatives politiques noires au niveau local, dans des villes à majorité noire qui étaient jusque-là gouvernées par des Blancs. Le Parti démocrate, on a au départ pas eu beaucoup de sympathie pour ce type d'initiative, mais il a fini par s'y ranger, dans une perspective tout à fait pragmatique qui consistait à apaiser les émeutes qui se sont propagées aux États-Unis à la suite de l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968. Mais le premier qui a frayé le chemin à ce type de politique sera Karl Stokes, qui sera le premier noir à prendre une mairie d'envergure à Cleveland. Et dans sa campagne, il attire un certain nombre de capitaux privés et développe un discours où il se présente comme un maire, évidemment, au-delà de tous les clivages raciaux, le maire de tous les habitants de Cleveland, etc., etc. Et d'ailleurs, dès son élection, il nomme comme chef de la police un vétéran de l'US Army blanc. Et cela, selon Taylor, cela initie toute une sorte de tournant électoraliste dans la politique dans la politique et le militantisme noir qui, à partir du début des années 70, va, selon elle, culminer avec l'élection d'Obama. Et le problème, analyse-t-elle, de cette élite noire, c'est qu'elle ne partage pas l'expérience de la grande majorité des Noirs issus de la classe ouvrière. Ils ne croient pas à la persistance du racisme structurel, puisqu'ils ne l'expérimentent pas. Et ils blâment essentiellement, dans leur stratégie politique, une culture de la pauvreté qui serait propre aux familles noires pour leur absence de mobilité sociale. Et cet argument de la culture de la pauvreté est encore quelque chose qui a un certain succès. Il se drape toutefois dans une espèce d'aura de solidarité raciale, mais pour faire oublier, pour dissimuler, qu'ils ont opté pour une stratégie de libération qui est une stratégie purement individuelle. Dans les années 90, selon Taylor, on a la fin de toute fidélité des élus noirs à leur propre base, à leur propre peuple. C'est-à-dire que des élus noirs, c'est-à-dire la majorité de ce qu'on appelle le caucus noir du Congrès américain, signent une loi mise en place par Clinton, qui est connue sous le nom de Violent Crime Control and Law Enforcement Act, 1994, qui est en réalité une espèce de pacte répressif qui contient l'extension de la peine de mort, l'extension de la perpétuité pour des crimes sans violence, l'augmentation des effectifs de la police, etc. Or, ce qu'on oublie, c'est que, rappelle Taylor, c'est un contexte émeutier qui a rendu possible cette ascension fulgurante d'une classe politique noire. Mais en même temps, même si c'était sa condition de possibilité, si c'est la rue et la violence urbaine qui a amené cette classe politique au pouvoir, elle s'est en même temps coupée absolument de cette dimension de révolte populaire. Et en outre, elle s'est maintenue au pouvoir en dénigrant et en criminalisant les Noirs pauvres. Notamment dans un contexte austéritaire où une politique sociale ambitieuse est impossible, c'est une manière de garder la face, une manière de cacher, criminaliser sa propre population devient un outil qui permet de mettre un masque, de mettre un voile sur l'inefficacité de sa propre politique. En outre, face au mouvement de protestation contre les violences d'État qui se sont, multipliées ces dernières années sous la bannière du Black Lives Matter, cette élite politique s'est révélée essentiellement inefficace, et, y compris dans le cas de l'assassinat de Freddie Gray à Baltimore en 2015, qui est une ville dotée d'une majorité, d'une administration qui est à majorité noire, écrasante majorité noire. Or, ces leaders, conclut Taylor, échouent lamentablement à maintenir leur propre population en vie. Leur politique des traitements des crimes racistes policiers n'ont absolument rien à envier au traitement des populations, des villes dont les administrations sont à majorité blanche. Ce que ceci nous enseigne, je crois, c'est l'importance de la construction d'une conscience de classe et d'une conscience de race claire et cohérente. Et cette idée nous permet, je crois, de réfléchir à un pont entre la tradition politique décoloniale et une tradition marxiste à partir de laquelle la question de l'internationalisme pourrait devenir une question fondamentale. Car, en réalité, j'ai l'air de sauter du coq à l'âne, mais pas du tout, puisque cette question, ou cet internationalisme est en réalité, je vais essayer d'en donner un exemple dans un instant, cette notion d'internationalisme est en réalité, au départ, je crois, une manière de nommer la conscience de classe dans la tradition marxiste. C'est une manière de nommer cette forme de conscience, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, disons, un exemple d'autorité, quoi, chez Lénine, la conscience de classe était très étroitement liée à cette question de l'internationalisme et cette question de la connaissance de sa propre place dans les rapports d'exploitation d'une société donnée. Je cite ce type, ce Lénine, dans la Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, texte de 1818. Ce n'est pas du point de vue de mon pays que je dois raisonner. Parenthèse, car ce serait là le raisonnement d'un benêt, d'un petit bourgeois nationaliste qui ne comprend pas qu'il est un jouet entre les mains de la bourgeoisie impérialiste. Fin de parenthèse. Mais du point de vue de ma participation à la propagande, aux travaux d'approche de la révolution prolétarienne mondiale. Fin de citation. Ce qui est intéressant là-dedans, dans cette citation, c'est que on a une version de l'internationalisme qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend la plupart du temps aujourd'hui sous ce terme-là. C'est-à-dire que c'est absolument pas le rêve, disons, d'un monde post-national. D'où l'idée qu'on va dépasser le truc de la nation, etc. Mais il s'agit d'une méthode qui nous indique à quelle boussole nous devons nous orienter. C'est un concept presque existentiel. Comment s'orienter dans les enjeux qui sont les nôtres, évidemment. Lénine sort là d'une séquence qui est la séquence de la Première Guerre mondiale et où il a vu les ouvriers se faire surexploiter pour la production massive des armes, leur participation à l'effort de guerre. Il les a vus se faire prélever pour aller se faire envoyer mourir au champ de bataille. Il a vu que, disons, c'était aussi des êtres absolument, absolument jetables et que leur participation à cet esprit national, à ce patriotisme, n'était qu'un instrument qui permettait de légitimer et de donner sens à cette surexploitation et à cette instrumentalisation de ces êtres comme des armes de guerre. Eh bien, il invite à cesser de s'orienter à partir de la perspective nationale, mais de s'orienter bien davantage à la boussole de sa conscience de classe, et on pourrait dire, puisque ces propos de Lénine sont extrêmement proches de choses qu'on pourrait lire par exemple chez Bicot, de s'orienter à l'aune de sa conscience de race, c'est-à-dire de sa compréhension et de sa connaissance de sa position d'opprimé dans les structures sociales de ce monde. Et cela nous autorise et nous permet de penser l'internationalisme pour ce qu'il est. Souvent, on critique l'internationalisme en disant, bon, vous savez, internationalisme, vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est entre les nations. On ne peut pas penser l'internationalisme sans penser fondamentalement d'abord la nation. Il y a des gens qui disent ça. Mais en réalité, ils insistent lourdement dans internationaliste sur ce que c'est que national. C'est ça le mot important. Mais ils ne réfléchissent pas à ce que signifie inter, à ce que signifie cet entre. Eh bien, moi, la manière dont j'aimerais interpréter cette citation de Lénine et qu'on pourrait mettre en écho avec d'autres propos qui seraient des propos, ceux de Fanon, ceux de Bicot, ceux des auteurs de la tradition radicale noire, Malcolm X, qui a des pages extrêmement claires et extrêmement vivantes sur cette question, c'est que internationaliste, ça ne veut pas dire entre les nations entre elles, mais ça veut dire se situer dans l'interstice entre les nations. Ça veut dire se représenter, se considérer soi-même comme les déchets de la nation, ceux que la nation assassine, ceux que la nation brise et ceux que la nation considère comme corvéables à merci. Et là, on a une autre conception de l'internationalisme. Là, on a cette idée de l'internationalisme existentiel qui est posée ici, qui consiste à penser d'abord en termes d'intérêt. Quel intérêt je partage avec les autres opprimés? Quels sont les caractéristiques et quels sont les terrains d'action possibles que nous avons en commun? Voilà, j'en termine là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.